Patria, Patriarca, 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 Patriarca.
Le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and hot.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin, un garçon.
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Nous sommes des élèves du lycée Jacques Prévert. Nous sommes allés interviewer des personnes à l'extérieur du lycée pour avoir plusieurs opinions entre les femmes et les hommes sur l'homosexualité. Nous sommes au Lidl de Sassenage. Nous sommes le mardi 12 janvier 2010. Il est exactement 9h30.
Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité ?
Je pense que ça complique la vie. Parce que c'est quelque chose pour moi qui n'est pas dans la norme.
C'est quoi qui vous gêne dans ce qui n'est pas dans la norme ?
Eh bien, c'est l'acceptation des autres et l'acceptation de soi-même. Je pense que ça complique la vie de la personne qui est homosexuelle. Déjà, la vie est compliquée et je pense qu'elle risque d'être plus malheureuse parce que trouver un conjoint, ça doit être plus difficile. Et c'est pas une simple sexualité, je pense. Il y a plus de... Comment dire ? Il y a plus de gens qui sont attirés par le sexe dans l'homosexualité et par l'amour aussi, mais c'est plus compliqué, je pense. Je connais des gens homosexuels.
C'était la question. Ils sont plutôt proches de vous ou...
Oui. Enfin, proches de vous. Pas de ma famille, mais oui. Ils sont proches de moi. Je les aime et donc quand je les vois souffrir, ça me fait de la peine.
D'accord. Ça vous dérange pas de sortir avec eux ?
Ils ont un affiche en tant qu'homosexuel, non.
D'accord. Et le regard des autres gens, ça vous dérange quand vous êtes avec eux ?
Non plus. Par contre, comme c'est des jeunes,
moi j'aurais plutôt conseillé d'attendre avant de le dire, parce que les gens de votre âge sont plus méchants que les gens plus âgés sont plus tolérants, et eux ils l'ont dit tout de suite.
Et est-ce que vous avez déjà eu une attirance du même sexe que vous?
Non. Jamais. Non, jamais.
Bah, merci beaucoup.
Pas de quoi.
Merci. Au revoir. Que pensez-vous de l'homosexualité?
Ce que j'en pense, c'est vite fait. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Et bon, c'est suivant la morphologie de l'homme et de la femme. Hein.
Très bien. Est-ce que vous connaissez des personnes homosexuelles de votre entourage?
Oui. Des personnes qui vivent très bien, qui vivent en couple, que ce soit des femmes ou des hommes.
Des hommes.
Qui vivent très bien. En général, c'est des gens qui sont très gentils.
Oui.
Voilà.
Et est-ce que vous sortez avec eux en général?
Non, on ne se mélange pas trop, je crois. C'est aussi bien d'un côté que de l'autre. On n'est pas. Ils ne nous évitent pas, mais chacun vit sa petite vie. Donc, j'ai pas eu beaucoup de rapports avec. Bon, on est très, très correct avec et il n'y a pas de problème. Hein.
Ça vous dérange, vous, le regard?
Pas du tout.
Du tout?
Non, non.
Très bien.
Je pense qu'on est comme ça. C'est pas chacun son homosexualité. Bon, ben, il faut mieux en parler, je crois, que de le cacher. Avant, c'était caché, maintenant, on en parle. Et puis, bon, ben, c'est bien, quoi.
Alors, que pensez-vous de l'homosexualité?
C'est un peu spécial, vu mon âge. Mais enfin, j'ai rien contre.
Très bien. Est-ce que vous connaissez des gens homosexuels de votre entourage?
J'en ai connu, oui.
Des femmes, hommes?
Femmes, hommes aussi, quelques-uns.
Ils le vivaient bien au niveau du regard des gens?
À l'époque, très mal. Enfin, faut expliquer que j'ai plus de 60 ans quand même.
Oui. Vous étiez pas obligé de le dire, on n'a pas forcé.
Non, 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 parce que il se passe des choses à l'heure actuelle, ouais, et puis qui se passaient pas il y a une dizaine d'années, quoi, je veux dire. Disons qu'avant c'était plus caché. Voilà, discret, disons.
Et est-ce que vous sortez en général avec des homosexuels?
Non, moi je sors surtout avec ma femme.
Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, mais avez-vous déjà été attiré par un homme?
Non, non, non.
Du tout.
Non, non, enfin, j'ai pas eu l'occasion.
D'accord, très bien. Bah, je vous remercie.
Bah, passez une bonne journée, puis merci, j'espère que ça vous servira.
Bonjour, que pensez-vous de l'homosexualité?
Ce que j'en pense, je suis très tolérante par rapport à ça. J'ai des amis dans mon entourage qui sont homosexuels et ça me pose pas de soucis.
Voilà. D'accord. Des amis femmes, hommes?
Des femmes.
D'accord, très bien. Est-ce que vous sortez avec vos amis en général en soirée, tout ça?
Oui, ça arrive.
Et vous acceptez le regard des gens par rapport à vos amis?
Ça me pose pas de soucis. Enfin, il n'y a pas de signe distinctif particulier, donc ça pose pas de problème.
D'accord. Donc vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, mais avez-vous déjà été attiré par une femme?
Non. Non.
Je ne veux pas jeter la première pierre, essayant poussant la porte.
Nous avons remarqué durant ces interviews que pour certaines personnes, il n'y avait pas de tabou, alors que d'autres, il y avait, ça les a plus gênés vis-à-vis de l'homosexualité.
Nous, on a pu remarquer que certaines personnes, ça les gênait encore de parler de ce sujet, car elles ont refusé de répondre à nos questions et que ça les mettait mal à l'aise juste d'entendre le mot homosexuel.
Bonsoir, bienvenue sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Alors ce soir, une émission sur un peu le milieu scolaire, quelles actions pédagogiques ou politiques ou autour de la question du genre, du sexisme on peut faire dans le milieu scolaire et autour, on vous expliquera un peu plus. Pour ça, on a des invités. Alors nos invités, c'est...
Moi c'est Jay.
Voilà.
Sylvia.
Voilà. Et puis Hélène et moi, Marina, pour animer l'émission. Et puis on a trois super techniciennes pour assurer la technique. Voilà. Donc là, ce qu'on a entendu juste en intro d'émission, c'était un micro-trottoir réalisé par des élèves du lycée Jacques Prévert à Fontaine, à côté de Grenoble. Et dans le cadre justement d'une action que nous, quelques-unes d'entre nous, là, on a menée dans ce lycée, des ateliers qu'on a fait pendant 2 ans, on en reparlera un peu plus tard, mais on avait envie de passer un bout de leur travail. Donc c'est aussi pour expliquer pourquoi c'est pas d'une qualité forcément hyper
Oui, hyper peut-être pointue. Au niveau sonore, des fois c'était un peu faible.
Parce que c'est leur travail à elles, que c'était la première fois qu'elles faisaient du montage de son et tout, donc on a vraiment respecté leur travail, on n'a pas retravaillé, vous savez, à leur place, quoi. Mmh. Et puis aussi, c'est leur question, c'est les gens qu'elles ont rencontrés, ce qu'ils avaient à exprimer sur cette question, donc... Voilà. Ça peut être un peu. Il y a des trucs un peu choquants hein, qui sont dits, c'est très homophobe parfois, mais ça reflète aussi des réalités.
Voilà, c'est pas toujours facile à entendre, mais bon, je crois que c'est aussi le principe des fois du micro-trottoir, de saisir quelqu'un comme ça à l'improviste et lui demander alors qu'est-ce que vous pensez de ça. Bah, des fois, il ressort des trucs un peu trash, mais bon.
Voilà.
Alors, du coup, bah ouais, dans cette émission, on avait envie. Déjà, ça nous semblait intéressant de traiter de cette question un peu du milieu scolaire et de l'aspect pédagogique aussi, comment on aborde ces questions effectivement de sexisme, de patriarcat, d'inégalité, etc. Parce que il nous semble que le patriarcat, justement, c'est bien un système de domination. Des hommes sur les femmes qui est transversal à l'ensemble de la société et du coup il n'y a aucun milieu qui y échappe et du coup on va voir en quoi dès l'enfance et du coup dès l'école maternelle il y a des choses qui se jouent là-dessus et puis en quoi effectivement c'est bien une construction sociale hein, qui va amener à construire des filles et des garçons, donc selon leur sexe biologique, alors attribuer un rôle dans cette société. Et c'est un peu tout le sens que nous on trouve à travailler auprès d'enfants, d'adolescents, etc. sur ces questions-là, c'est de les aborder, de rencontrer ces personnes dès le plus jeune âge, dès que cette construction sociale, elle est activée, pour pouvoir tout de suite la questionner et se dire mais est-ce que c'est ça qu'on a envie d'être? Est-ce que c'est à ces normes-là qu'on a envie de répondre? En quoi ça peut être enfermant, violent, etc. Donc au cours de l'émission, on vous fera part un peu d'observations qu'on a pu avoir dans ces milieux-là. De récits d'expérience, parce que ça s'appuie aussi sur des pratiques, des rencontres avec des enfants, des adolescents, et puis un peu des analyses de ce travail-là. Et puis en cours d'émission aussi, on s'écoutera un deuxième petit montage, toujours des lycéennes et du lycéen ou...
Oui, je crois qu'il y a un garçon qu'on va entendre dans le prochain montage.
Voilà, du lycée Prévert à Fontaine, qu'on remercie aussi d'avoir contribué à alimenter nos réflexions. Voilà. Du coup, on va, avant de développer un peu tout ça, on va s'écouter un morceau d'une artiste qu'on aime beaucoup, Anne Sylvestre, qui a beaucoup travaillé sur les questions de genre, puis en plus avec de l'humour, de la dérision et tout ça. Donc on s'écoute Anne Sylvestre et c'est...
Il s'agit d'un morceau qui s'appelle « Une blonde ».
On se trouve un peu moins tarte, qu'on se regarde sans horreur. Quand les affaires enfin repartent, quand ça gratouille au côté cœur. Quand on a fait tous les régimes et qu'on a perdu ses coussins, ça serait carrément un crime de ne pas exploiter le terrain. Bref, on va pouvoir vivre un peu, regarder l'avenir en bleu. C'est alors qu'arrive une blonde. En 2 secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous réponde, ils sont là qui lui font la haine. Toujours il arrive une blonde et on la haine. On n'est pourtant pas repoussante, On s'est épilé les mollets, on a l'incisive éclatante, l'œil crayonné, les ongles faits. Petit boudin, grande saucisse, même combat, même drapeau. Grand échalas ou courte cuisse, la séduction ou le tombeau. On se met dans tous nos états pour émerger un peu du tas. C'est alors qu'arrive une blonde. En deux secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous répond, ils sont là qui lui font la haine. Toujours, il arrive une blonde et on la hait.
Oh, c'est vrai ça.
Bien sûr, il y a les teintures, mais le problème n'est pas là. La blondeur, c'est une nature, on est blonde ou on ne l'est pas. Elles ont la beauté bien heureuse, on les regarde, c'est normal. Tandis que nous, les besogneuses, on brille, nous on a du mal. À nos barrettes et chapeaux, autant dire les grands travaux. C'est alors qu'arrive une blonde. En deux secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous répond, ils sont là qui lui font la haine. Toujours il arrive une blonde et on la hait. Quand plus rien ne nous console, ni qu'on se roule à nos genoux, ni qu'on nous jure qu'on est folle, qu'ils sont tous amoureux de nous, que d'ailleurs les blondes on s'en fiche, et qu'on préfère les boudins, tiens, que Marilyn c'est de la triche, et qu'elle était même pas bien. On essaye d'y croire un peu, mais on sent que c'est pas sérieux. Alors on imagine un monde peuplé de blondes, ça serait joli s'il n'y avait plus à la ronde. Rien que des blondes, on le saurait aussi. Plus de jalousie vagabonde, à nous aussi il ferait la haine. Alors on se fait teindre en blonde et on se hait.
Alors, j'espère que vous aurez bien pris cette chanson, c'est-à-dire qu'on n'a rien contre les blondes, hein, on ne va pas entretenir cette culture discriminante envers des personnes qui auraient cette couleur de cheveux. Je crois que ce n'était pas ça l'idée de la chanson, c'est plus justement toutes ces normes sociales sur la beauté, l'esthétique, voilà, donc là, ce qu'on attend des femmes, donc c'est d'être jolie, par exemple, d'être blonde, c'est un critère... voilà, positif, de séduction, des choses comme ça. Du coup, c'était plus pour se moquer de ces codes-là et pas du tout spécialement des blondes.
Oui, Anne-Sylvestre utilise beaucoup l'ironie et beaucoup un peu un ton satirique, quand même.
Tout à fait. Ouais. Oui, voilà, moi j'avais juste envie de le préciser. Quoi.
Oui, mais défendons Anne-Sylvestre jusqu'au bout.
Voilà. Et donc, comme on commençait un peu donc, à l'exprimer autour de cette idée de sexisme et en milieu scolaire, il y avait vraiment... Cette première idée, en fait, pour nous, c'est qu'il était un peu de savoir pourquoi ça nous semblait essentiel de pouvoir aller à la rencontre d'enfants, d'adolescents, sur ces questions de genre, de sexisme, de discrimination, de violence. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu en plus dernièrement de choses autour de ça, de est-ce qu'avec les enfants, on peut parler de sujets... De sujets importants, graves, voire polémiques. Et il semble qu'on soit dans une société assez réactionnaire. Alors c'est vrai que par exemple, moi j'avais envie de citer l'exemple là, un exemple qui occupe beaucoup les médias, qui est donc ce film d'animation à destination des enfants, qui est en cours de réalisation, hein, qui est même pas terminé, en Bretagne, qui met en scène donc deux poissons mâles qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et donc c'est un film pour rendre compte de cette réalité sociale qui est l'homosexualité, hein. Et donc le ministère donc de l'Éducation nationale a jugé que c'était une incitation à l'homosexualité, à ce crime hautement punissable d'homosexualité, et que du coup il fallait pas le diffuser en milieu scolaire. Donc c'était un exemple pour dire que nous, on s'insurge vraiment contre cette idée qu'on ne pourrait pas aborder des questions qui concernent et qui... Enfin, nous, on s'en rend compte tous les jours et qui, de toute façon, qui questionnent énormément les enfants, en fait. Enfin, c'est des préoccupations qu'ils ont. Du coup, pourquoi on n'en parlerait pas avec eux ?
C'est vrai que nous, dans le cadre de notre travail au lycée, avec les jeunes, on fait des ateliers sur la sexualité, on en discute. Et on se rend compte qu'il y a énormément besoin d'en parler. Et que c'est bien, quoi. Et que je pense qu'en parler, ça permet justement de faire des choix. Il y a un peu, des fois les profs disent, mais si vous en parlez, le fait d'en parler, ça ferait qu'on ferait plus de trucs. Enfin, déjà, comme si c'était mal le sexe, alors ça c'est un truc déjà, mais ça les inciterait à faire du sexe, quoi. Alors qu'en fait, moi je crois pas du tout ça. Moi, ce que je défends, c'est que plus on parle des choses, plus on est au courant, plus on sait, plus on est apte à choisir ce qu'on veut vraiment vivre et ce qu'on veut vraiment ne pas vivre. Et je crois que justement, c'est tout ce tabou et tout le fait de ne pas parler de sexualité, par exemple, qui fait que plein de jeunes filles et de jeunes garçons vivent des choses qu'ils n'auraient pas tellement envie de vivre, finalement. Je suis persuadée de ça, moi. Donc je défends vraiment le fait de parler, quel que soit l'âge, moi, je pense.
Mais parce qu'en plus, dans le milieu scolaire, il y a les rôles sociaux que nous impose la société, comme société patriarcale, comme tu l'as très bien dit, Hélène, qui existent et qui sont là. C'est-à-dire qu'on dit oui, il ne faudrait pas parler d'homosexualité. Et alors, en plus, on parle par contre de sexualité dite biologique, où donc on étudie le sexe, et on étudie le sexe uniquement à travers la reproduction, par exemple. Et on ne parle pas des autres formes de sexualité qui peuvent exister, et du plaisir aussi, par exemple, sexuel qu'on peut avoir. Oui.
C'est le plus important, je crois.
Ouais, on est d'accord. Mais du coup, que le fait qu'on n'axe que sur un truc, c'est un choix aussi. Et que en tout cas, je pense que pour nous, d'intervenir dans les lycées, c'est hyper important d'ouvrir en fait à justement d'autres possibles, et du coup faire exister une réalité à l'intérieur aussi de groupes classes, quoi, et de ce cadre là, quoi,
Et alors effectivement, là on parle donc de réalité à l'école, et moi ça semblait aussi intéressant de rappeler des études qui ont été faites sur comment justement on conditionne les enfants, et notamment à travers l'école, hein. Je pense que l'école n'a pas que des mauvais côtés, mais n'empêche que ça conditionne beaucoup les enfants à rentrer dans des catégories sociales de garçons ou de filles, à correspondre aux codes, aux comportements qui doivent aller avec. Le fait d'avoir une petite vulve ou un petit pénis, on attend vraiment des choses des enfants. Et donc oui, il y a des études terribles, terribles dans ce qu'elles révèlent, je trouve, qui ont été faites, qui montrent que les enseignants, dès la maternelle, n'ont pas la même façon de stimuler des petits garçons et des petites filles. C'est-à-dire que déjà, pour être très concret, par exemple, ils vont plus stimuler les garçons au niveau physique, en disant « mais si, tu peux le faire, t'es capable, tu peux monter sur ce banc, tu peux sauter, etc. » Alors que les petites filles, ils vont plus les inciter sur des travails plus... intellectuel ou manuel, et à rester aussi tranquille et à être sage, etc. Et même dans la façon de questionner les enfants, apparemment il y a aussi des chiffres, alors que j'ai plus précisément en tête, mais qui montraient que un enseignant va poser beaucoup plus de questions aux garçons dans la classe qu'aux filles. Donc voilà, essayer d'aller les chercher quelque part finalement, de stimuler leur intelligence, on pourrait dire, et de se dire que ça doit avoir aussi des conséquences après sur comment évoluent ces filles et ces garçons, et voilà, dans quel rôle ils sont, quoi.
Oui, je pense que ça a notamment des conséquences sur l'estime de soi des filles, parce que quand on n'est pas stimulé, quand on ne nous appelle pas pour qu'on intervienne en classe, après c'est difficile de construire une identité, une estime de soi. On a du mal à être à se valoriser
Ouais, avoir une identité positive.
Voilà.
Ouais, tout à fait. Hein. Et du coup, on voulait aussi donner, par rapport à cette question-là du milieu scolaire, on voulait aussi donner un peu des exemples différents dans d'autres pays, de choses qui ne se font pas en France et qui pourtant sont très intéressants.
Oui, il y a un pays, par exemple, il me semble que c'est la Suède, mais qui va à l'inverse de ce que t'expliquais tout à l'heure, qui essaye de déconstruire ça en proposant, par exemple, aux petites filles des ateliers où elles apprennent à planter des clous, à se servir de leurs mains, à se montrer les unes les autres qu'elles ont de la force, à tâter leurs muscles et tout. Et que les petits garçons, eux, dès la maternelle, ils apprennent à se faire des massages, à écouter de la musique douce, à se faire des câlins et à se toucher de manière douce et agréable entre eux. Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a aussi d'autres pays où il y a déjà des réflexions plus avancées sur comment on peut lutter contre le sexisme et déconstruire ça.
Mm-hmm. Et il y a un exemple aussi au Québec. Il y a une amie là qui est instructrice d'autodéfense pour femmes et qui a fait une formation au Québec. Et en fait, elle a constaté que là-bas, c'était pas du tout réservé aux adultes. Qu'il y a des instructrices d'autodéfense intervenaient. Je crois dès la maternelle, il me semble, enfin vraiment peut-être à partir de 5 ou 6 ans, mais pour apprendre aux filles. Donc ça veut dire que dans les classes, à des moments, les filles et les garçons étaient séparés sur certaines activités. Aux filles, comment réagir face à leur environnement quand il y a des formes d'agressivité, quand il y a des choses avec lesquelles elles ne sont pas d'accord, pour mettre des limites, etc. Donc c'est vrai qu'avec le terme d'autodéfense, peut-être je crois que des fois c'est connoté, on a l'impression que, je sais pas, qu'elles apprennent le karaté ou quoi. Je crois que l'idée à la maternelle, c'est peut-être pas exactement ça. J'ai l'impression que c'était plus sur poser des limites, savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, que j'ai le droit de dire non, comment je peux dire non et me faire entendre et me faire respecter.
Oui, puis c'est complètement lié avec la confiance en soi dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ce que j'imagine, et puis moi ce que je trouverais intéressant de travailler auprès des enfants, c'est vraiment... Et puis finalement, tu vois, aussi auprès des petits garçons, parce que moi c'est quand même intéressant cette réflexion sur l'enfance aussi, quoi. Comment aussi on prend les enfants pour des cons, comment on leur permet pas de s'exprimer sur ce qu'ils et elles ont envie de faire, vraiment... Et du coup, moi je trouve que c'est intéressant que les petites filles vraiment travaillent ça avec elles, quoi. Comment effectivement, ce qu'elles pensent, c'est bien, c'est intéressant, et puis elles ont le droit de le dire, et puis elles ont le droit de s'exprimer là-dessus.
Spinderella cut it up one time.
Oh. Moi j'aime pas cette façon de faire.
Hey. Uh-huh. Oh. Mm-hmm. Oops. Ooh. Oops, okay. Spinderella cut it up one time. Oh, hey, uh-huh. Oh, mm-hmm. Oops, ooh. Oops, okay. Uh-huh. Oh, mm-hmm. Oops,
might misunderstand what we're trying to say, you know?
No, but that's a part of life.
And the radio might not want to play this record either.
But everybody has sex.
I know, but everybody should be making love.
That's true.
You know what I'm saying?
Come on.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid or make void the topic,
'cause that ain't gonna stop.
Now we talk about sex on the radio and video shows. Anything goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pen? I doubt it. Alright then, come on, spin.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Hot to trot, make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag, so she should have been glad. But she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note. That last night was dope, 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 dope.
Take it easy.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Do it.
Let's talk about sex.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Kaléidoscope 97 FM et ce soir on écoute l'émission Dégenrée sur un peu quelles actions pédagogiques on peut faire autour de la question du sexisme dans le milieu scolaire, enfin auprès des jeunes et des enfants et des adolescents, que ce soit au milieu scolaire ou à l'extérieur d'ailleurs. Enfin, c'est plutôt l'idée de ça, d'une autre pédagogie quoi.
Tout à fait.
Et on vient d'écouter un morceau de Saltenpepa. Alors peut-être que certaines d'entre vous s'en souviennent et l'ont écouté lorsqu'elles étaient adolescentes ou enfants. Et alors ce morceau, il dit « Allez-y, c'est parti, on n'a qu'à parler de sexe ». Donc ça va bien avec ce qu'on dit ce soir finalement.
Et alors j'ai même entendu, moi c'était un tube de mon adolescence. À l'époque, je crois que je ne comprenais pas très bien l'anglais. Donc je n'avais pas. Mais là, j'ai entendu récemment qu'en fait, il avait été censuré aux États-Unis parce que... voilà, parce qu'il avait des paroles crues. Donc il faut croire que dire « parlons de sexe », voilà, c'est un peu subversif.
Mais peut-être que nous, on ne comprend pas ce qu'il y a dans les couplets, et que peut-être elle parle de sexe plus crûment, vu notre niveau d'anglais.
Non, c'est une personne qui parlait bien anglais, hein, qui disait que vraiment... c'est ça, on disait voilà, « parlons de sexe », disons, je crois à un moment, disons « ce qui nous fait plaisir ».
Ah oui, d'accord. Enfin, c'est pas, elles disent pas des trucs très crus à l'intérieur.
Non, pas du tout. Et voilà, donc je pense que non, mais c'est dire peut-être parlons de sexe, et ben c'est hautement subversif ou je sais pas, il y a un truc qui pose problème là-dedans.
Peut-être avais-tu raison quand tu parlais d'une époque un peu rétrograde et conservatrice.
Ouais, il faut croire. Hein. Et alors, moi, j'avais envie d'essayer de voir un petit peu des observations justement qu'on a pu faire dans le milieu scolaire. Et justement, toi, Sylvia, tu as eu une pratique un temps pour ça d'observation en collège. Et du coup, j'avais envie de voir un peu plus toi ce que tu avais pu constater sur ces formes justement de violence, de sexisme, etc.
Oui, donc c'était une observation qui a eu lieu en 2006. Dans deux collèges de la région de Toulouse et j'ai observé donc les adolescents donc au collège et c'était bon au début c'était un peu étrange parce que ce que je voyais c'était surtout des violences finalement des garçons contre les garçons comme s'il y avait un peu une sorte d'honneur de bon, voilà les garçons ils tapent pas les filles mais finalement ce que j'ai
parce qu'il devait pas être sympa non plus quand même ces violences entre garçons quoi
non voilà et puis finalement ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était des violences qui, en général, qu'on pouvait analyser aussi avec le prisme de la domination masculine, du patriarcat. C'est-à-dire que très souvent, les insultes qui fusaient, c'était des insultes sexistes et homophobes, du type enculé, tapette, pédale, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer.
Ouais, donc c'était un peu ça en fait, de dire que oui, c'est le pire truc qui puisse arriver quoi dans la vie,
voilà.
C'est d'être
exactement
d'être homosexuel.
Ouais, ouais, tout à fait, c'était le plus humiliant et qui voilà, c'est une façon de rabaisser l'autre et qui était aussi sur les plus faibles en fait, c'est toujours des rapports de du plus fort au plus faible. Et aussi donc sexiste, homophobe, voilà, qui et puis les filles, bon, il y avait aussi des tout ce qui est salope, pétasse, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Des coups, c'était assez rare, mais ça pouvait arriver. Mmh. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les filles ne remarquaient pas vraiment les violences. En fait, il y avait une sorte de déni, comme si pour elles, c'était quelque chose de normal. Le fait d'être insultées, le fait qu'on leur touche les seins, les fesses, c'était quelque chose qui fait partie de leur quotidien et qui a été accepté et qu'elles ne voyaient plus comme une violence.
Et du coup, elles ne se révoltaient pas spécialement contre non. ça, quoi.
Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de faire des interventions, de faire tout ce qui peut permettre de faire prendre conscience que ça et ça, ce n'est pas acceptable. Voilà, mm-hmm. C'est une atteinte à la dignité de la personne. Mm.
Et peut-être de lui donner des moyens, du coup, de se défendre, de se rebeller contre ça.
Tout à fait. Mm-hmm.
Ben, pour moi, c'est ce qu'on essaye un peu de faire dans les ateliers où on fait les interventions là, dans deux lycées, à Fontaine et à Prévert, ensemble, toutes les trois et d'autres gens. Et du coup, moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que dès qu'on ouvre un espace, en fait, où on peut parler de ça et où on considère que c'est un vrai sujet et on laisse la possibilité de s'exprimer sur c'est quoi cette réalité, qu'est-ce que ça nous fait d'être traité de salope, de pétasse, qu'on nous interdit de sortir le soir, mais pas à mon petit frère parce que lui il peut se défendre, ou que n'importe quoi. Et ben ça, dès qu'on ouvre un espace, les filles, elles en prennent conscience, mais très très rapidement. Et la plupart, elles ont toute envie de sortir... de sortir de ça et de trouver des moyens. Alors après, ce qui est intéressant dans les ateliers, c'est que même il y a des filles qui résistent aussi à ça et qui restent dans les normes du patriarcat, mais que quand même, il y a toute une majorité qui, quand on présente ça comme étant des injustices, qui le ressentent directement et qui cherchent des moyens de s'en sortir.
Mais du coup, l'idée, c'est peut-être de pouvoir ouvrir des espaces où on, voilà, de reconnaissance de ce qui est vécu et de pouvoir dire, ouais. Ben moi, ça m'évoque cette idée en tant que féministe, cette idée aussi que à un moment que j'ai pu vivre avec d'autres femmes et je crois moi-même en fait, c'est de dire que c'est compliqué de reconnaître qu'il y a un système de domination patriarcale, parce que ça voudrait dire que nous les femmes, et moi personnellement, je suis une victime, et du coup moi j'ai pas envie d'être une victime dans ce monde-là, j'ai envie d'être forte, j'ai envie d'être valorisée, appréciée, et du coup ouais, moi je crois que je peux faire ce parallèle-là en fait, de dire ben peut-être que pour les filles, c'est plus facile d'en rigoler ou de faire comme si tout allait bien, plutôt que de dire ben non, ouais, ça me fait du mal, je me sens humiliée, etc. Parce qu'après, c'est si tu te reconnais victime, ben qu'est-ce que tu peux faire derrière, quoi.
Moi, j'avais une question pour toi, Sylvia. C'est suite du coup à cette observation qui était commandée par le rectorat. C'est ça, c'est le rectorat qui t'a embauché pour que tu fasses, pour que tu observes les cours d'école.
Oui, c'était le rectorat avec en association avec l'association les anciens du DSS dont j'avais fait mon DSS, quoi.
D'accord. Et ma question, c'était, est-ce que tu sais si cette étude-là, cette observation, elle a servi à quelque chose? C'est quoi les suites de cette observation? Est-ce que, enfin, c'est ce que tu sais, toi, et puis un peu pour savoir comment l'éducation nationale se bouge là-dessus, quoi.
Oui, alors, ça a été mis en ligne, déjà. Donc, c'est accessible pour les personnes qui s'intéressent à la question assez facilement. Et puis, par ailleurs, j'ai participé à un colloque sur les violences sexistes à l'école à Rennes. Donc, c'était organisé par le rectorat de Rennes, cette fois-ci, l'année d'après. Et où je suis intervenue, j'ai expliqué ce que j'avais fait comme étude. Et c'était le public, c'était des acteurs de l'école, donc les profs, les instits, les assistants sociaux, infirmières, etc.
Ils avaient conscience de ces violences-là, toi, t'as l'impression ?
Ben, ils venaient parce qu'ils en avaient conscience.
Oui, toi tu trouves...
Voilà, c'est ça. Et eux, ils avaient les faits en face d'eux. Peut-être qu'ils n'avaient pas toujours fait attention aux moindres petits détails, mais en général, c'est des choses qu'ils avaient vues. Mais ils n'avaient pas obligatoirement les concepts pour analyser pourquoi ça se passait comme ça, quels étaient les processus d'acceptation de la violence, de production de la violence, etc. Et c'est pour ça dans l'ensemble, ils étaient assez intéressés par cette étude, quoi, parce que ça permettait de mieux comprendre ce qui se passait, et pour eux, derrière, d'avoir des moyens d'action, de réflexion, en tout cas, sur quand ils revenaient dans leur établissement.
D'accord. Et ben, peut-être avant de continuer un peu sur ces questions-là, moi ça me faisait penser aussi à un film que je trouve intéressant à voir sur le milieu scolaire et de voir comment ça se construit très tôt, ces rôles sociaux et ces rapports de domination. C'est un film qui s'appelle Maternelle de Claire Simon.
Oui.
Et donc, vu le titre, il doit se passer en maternelle, hein. C'est des tout petits, hein.
Oui, je crois. Je l'ai vu il y a longtemps, j'ai un peu oublié.
Ouais, moi, il m'a vraiment marqué. Je me rappelle. Donc, c'est pareil, je pense qu'il doit être accessible dans certaines vidéothèques ou peut-être vous pouvez chercher sur Internet. Donc, de Claire Simon. Et une auteure qui a traité pas mal de réalité sociale, justement sur des questions de genre et tout. Donc, elle a d'autres films aussi intéressants. Et là, on voit très bien comment ça se met en place, ces rapports de domination, en quoi ils sont genrés, hein, donc en quoi il y a un rapport de domination des garçons sur les filles, mais en quoi des fois c'est plus insidieux, en quoi il y a aussi le rapport des plus grands, de domination des plus grands sur les plus petits, et puis en quoi c'est aussi sur des ressorts psychologiques, etc.
Puis des garçons entre les garçons aussi.
Tout à fait, quoi.
Parce que ça, on n'a pas raconté, je parlais que des filles, mais les garçons entre eux aussi, c'est quand on fait les ateliers, c'est très fort. Et par contre, c'est beaucoup plus difficile, moi je trouve, de faire prendre conscience aux garçons que il y a du sexisme entre eux, parce qu'ils sont tous beaucoup plus envie de se valoriser dans cette virilité-là, par exemple, masculine, de « on est super fort et on n'est surtout pas des homosexuels » et tout ça. Et donc les personnes qui en souffrent, les garçons qui en souffrent dans la classe, sont en général en petite minorité. Et c'est beaucoup plus difficile d'inverser ce rapport-là qu'avec les filles qui prennent conscience beaucoup plus facilement de la domination qu'elles subissent. Et les garçons, c'est plus subtil à déconstruire, quoi, parfois.
On va continuer donc à réfléchir à tout ça. Et peut-être avant, il y avait un morceau de rap qui a un titre assez évocateur, parce que c'est « Si j'étais un homme ». Du coup, c'est bien peut-être que dans cette société, c'est plus valorisant ou plus valorisé, en tout cas, d'être un homme. Donc c'est Princesse Agnès, c'est ça ?
C'est ça.
Tiens, Rachid, c'est bien que je te vois, j'ai deux, trois trucs à te dire.
Vas-y, dis-moi.
Ouais, par rapport à ma copine qui est soi-disant ta femme.
Ouais, comment ça, soi-disant ? Ouais, soi-disant. C'est ma femme.
Ouais, c'est ta femme et ouais. Tu la frappes.
Et alors, mais je la frappe, mais tu quoi ? Tu viens ici pour me dire ça ?
Ouais, je viens ici pour
tu
dire ça.
Tu crois que je sais pas que je la frappe ? Je la correctionne et alors ?
Et tu crois que c'est bien ?
Mais de quoi ? C'est comme ça, je la frappe, c'est comme ça.
Quoi ? C'est comme
tu
ça.
Tu sais ce qu'elle a fait ?
Et alors ?
Est-ce que tu sais
et
ce qu'elle a fait ?
Et alors, toi, t'es un bonhomme, tu crois que c'est bien de frapper une femme sans défense ?
Sans défense ?
Ouais, sans défense.
Sans défense ? Sans défense, et alors ?
Elles sont toutes les mêmes, mis à part ma mère et mes sœurs. Si j'étais un homme, je me dirais que le sexe faible, mes cœurs. Regarde ce qu'elles sont devenues, le cœur impur, les mœurs dégradent. L'image de la femme de prostitution et de sexe en cage. Si j'étais un homme, est-ce que je me contenterais de ces propos? En me disant que l'émancipation s'est faite malgré nous trop tôt. Qu'il faut pas confondre les rôles des dominants, dominés, obstinés comme la MLF. Condamner cette gente à sa destinée. Est-ce que je suis un très sous-estimé? Celles qui se battent pour réussir, qu'elles fassent pas d'illusions sans passer sous un mec à coup sûr. Est-ce que j'interdirais à ma sœur de sortir le soir de peur qu'elle donne son cul, finisse sur un trottoir? Est-ce que je parlerai d'embrouille pour prouver que j'ai des couilles? Et je serai fier devant mes potes quand je raconterai que ma femme, j'y mets des coups. Et plus je connais les femmes, et plus c'est les chaînes que je découvre. Une meuf du move superficiel, matérialiste qui me prouve. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter et raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. J'étais un homme, serais-je comme la plupart homophobes? Est-ce que je suivrais la vie de l'opinion publique comme une mode? Je me dirais que leur comportement est plus qu'incohérent. Devant un mec qui en aime un autre, tu peux être qu'intolérant. Est-ce que être macho signifierait que je représente la virilité? Le pacte et ses conneries seraient pour moi qu'une indignité. Est-ce que je serais à 100% contre celles qui veulent la parité? Qu'elles restent à leur place, leur place est d'être femme au foyer. Est-ce que je refuserais d'obéir aux ordres de ma supérieure? Sans réel prétexte, juste pour mes principes et mes valeurs. Est-ce que j'admirais ce mec parce qu'il enchaîne ta surcharge? Sur cette meuf qui fait la même, qui ne se regarde plus dans une glace. Aurais-je l'audace d'admettre que princesse Agnès sera mieux que moi? Ou je me dirais qu'elle a couché pour en arriver là?
Mais bien sûr toutes les meufs couchent.
Mais vas-y, laisse tomber.
C'est le showbiz, showbiz.
Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter et raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Lève ma main sur ma femme pour la mettre ensemble. Est-ce que je lui dirais que c'est elle qui me fait perdre la raison? Est-ce que je glorifierais avec mes potes de faire des tourmentes? Est-ce que je dirais que c'est cette sale pute qui était consentante? Est-ce que je suis combré en soirée à cette meuf provocante? Jouer le mac et faire le canard avec ma femme dès que je rentre? Est-ce que je dirais que c'est belle et bien elle qui m'avait chauffé? Je suis pas coupable de viol et que c'est elle qu'on doit coffrer? Est-ce que j'aurais le trophée du beau gosse, du player? Et qu'en termes d'adultère, je serais fier d'être le meilleur? Est-ce que je lui dirais que j'aime pour pouvoir la soulever? Quand elle me dira je suis enceinte, est-ce que plus qu'un va souvenir? Que je me dirais qu'avortement est assassinat d'un monde. Je m'en mettrais en question après d'être père d'assumer ce rôle si j'étais un homme. Est-ce que je penserais que la femme n'est rien sans l'homme? Ou au contraire que la femme est l'avenir de l'homme? Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter et raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Souffrir, se dévouer, subir, subir. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire, suffire. Aimer, souffrir, se dévouer, subir, subir.
Si quelques mots valent la
toujours à l'écoute de Dégenré sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Alors voilà, ce soir on tourne un peu autour de cette question de comment on fait par rapport aux violences sexistes dans le milieu scolaire, auprès des enfants, les ados et tout, le collège, le lycée. Est-ce que toutes ces questions-là, quoi. Et là, on voulait un peu raconter un peu plus nos expériences.
Ouais. Et du coup, voilà, l'idée, c'était peut-être de se questionner, puisque là, on est quatre personnes autour de cette table à avoir entrepris des interventions en milieu scolaire, donc que ce soit plus des observations ou des ateliers ou choses comme ça, à voir un peu qu'est-ce qui, personnellement, déjà nous a amené à intervenir dans ce cadre-là, quel intérêt on y voyait, pourquoi on a proposé, on a proposé ça. Donc voilà. Alors je sais pas qui veut se lancer. Je ne sais pas si Sylvia, tu as envie de nous dire un peu toi, donc plus dans un cadre d'observation. Je crois que c'est intéressant aussi. Tout à l'heure, tu as évoqué ton DESS à Toulouse. Et moi, je pense que les gens ont peut-être, savent peut-être pas qu'il existe des études sur la question. Du coup, tu peux peut-être nous dire ce que c'était cette formation.
Oui, donc c'est un DESS. Maintenant, ça va être un master qui s'appelle Politique sociale et rapports sociaux hommes-femmes. C'est donc à Toulouse. Et
il n'y en a pas beaucoup en France ?
Non, c'est vraiment très, très spécifique. Et c'est dans le cadre des études féministes, en fait. Donc moi, j'ai fait ce DESS. Ça m'a permis d'avoir une vision assez précise de ce que sont les études féministes, etc. Et donc après, j'ai fait un stage au rectorat de Toulouse. Où j'ai fait un bilan des actions qui avaient été menées dans le cadre de la convention pour l'égalité des chances entre les filles et les garçons. Et après, j'ai fait donc cette étude sur les violences sexistes au collège. Donc c'est comme ça, moi, parce que j'avais un intérêt sur les questions d'éducation, je pense que c'est très important, comme tu l'as expliqué au début. C'est comme ça qu'on peut aussi agir sur les représentations sexistes. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu travailler là-dedans.
D'accord. Et alors, je ne sais pas après si Marina, tu as envie d'expliquer la naissance un peu de ce projet.
Dans les lycées, avec le lycée Jacques Prévert à Fontaine.
Oui.
Mais c'est parce que...
C'est intéressant de voir les partenariats aussi, comment on rencontre un peu...
Moi, je crois que pour réussir à rentrer dans les lycées, c'est pas si dur. C'est ce que j'ai découvert avec ce travail. Moi, je pensais que c'était plus dur de faire des trucs dans l'éducation nationale. Et en fait, je pense que le meilleur moyen, c'est de rencontrer des profs et que les profs aient envie de vous inviter dans leur classe, en fait, pour faire des ateliers. Et parce que c'est ça qui s'est passé, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que... Moi, j'étais intervenue avec l'association des lesbiennes de Grenoble, les Voix d'Elle, au lycée Jacques Prévert, dans une classe, pour un petit atelier d'une heure ou deux, où on avait discuté de l'homosexualité avec les élèves. Et puis après, en discutant avec la prof, on en est venu à dire qu'on était quelques-unes, à faire un petit spectacle autour des textes d'Evensler, des monologues du vagin... J'ai dit, ah bon, c'est vachement intéressant, mais faudrait que vous veniez dans ma classe, là, là, là. Alors au début, moi, j'avais pas compris, je croyais qu'elle voulait qu'on joue le spectacle pour ses élèves. Et du coup, je fais, ah ouais, à fond, ok, d'accord. Et puis finalement, en la revoyant un peu plus tard, en la recontactant, on se rend compte qu'en fait, ce qu'elle nous demande, c'est qu'on fasse, c'est qu'on mette en scène avec ses élèves les textes, quoi, qu'on fasse des ateliers avec ses élèves pour que ses élèves...
Qu'elles se réapproprient un peu ces textes et ces questions-là, quoi.
Et donc voilà, en quelques semaines, bam, bam, on a lancé ça, on s'est lancé avec les élèves, on a fait 4 ou 5 ateliers avec elles. C'était une classe de coiffure, donc une classe où il n'y avait que des filles, et c'était super chouette, quoi. Bon, c'était du théâtre, hein. On n'a pas eu le temps vraiment d'aborder des questions de fond avec elles, mais rien que... apprendre à dire à haute voix des textes qui parlent de vagin, qui parlent de sexe, qui parlent de... C'était super important pour elle et pour nous aussi, et c'était hyper chouette. Mmh. Et à partir de là, voilà, cette prof-là, elle a parlé de nous à ses collègues, et bam, il y a une collègue qui a monté un projet, qui a débloqué des sous, et en fait, vraiment, c'est comme ça qu'on peut commencer à rentrer dans les lycées. Alors, je crois que les collèges, ça doit être un peu plus dur, parce qu'il me semble qu'il faut un agrément...
De jeunesse et sport, il me semble, oui.
Voilà, mais les lycées, il n'y a pas besoin d'agrément, en fait. Enfin, nous, on a une association, voilà, dont c'est l'objectif, quoi, justement, de pouvoir mettre du débat, de créer de la discussion et tout. Donc, c'est vraiment chouette, quoi. Donc, ça fait 4 ans maintenant que, je crois, on intervient tous les ans. On a une classe ou 2 classes. On fait entre 5 et 8 ateliers. On utilise toujours un peu cette forme du théâtre là qui permet de s'exprimer, qui permet de jouer aussi sur les représentations, parce que comme on parle du genre, et ben c'est intéressant aussi de jouer avec son corps, avec sa voix, avec il y a plein de choses intéressantes à voir. Puis surtout, on fait beaucoup de débats, quoi, et beaucoup de discussions. Mm-hmm. Enfin, du coup, bon, je suis pas seule là.
C'est ça, t'as rejoint aussi ce projet. Du coup, c'est ouais, voir toi, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ces actions là.
Voilà, bah moi j'ai vu votre spectacle, du coup, qui était ma première expérience en non-mixité, et du coup
comment on n'était que des femmes et on a parlé après et on a pu vraiment créer des discussions de fond après le partage ensemble de tous ces textes forts. Et moi, ça a été aussi une porte d'entrée dans le féminisme hyper forte pour moi personnellement. Et du coup, après, ben, on a commencé à se connaître, à se rencontrer. Et puis moi, j'étais intéressée par des formes qui liaient aussi... forme artistique et discussion de fond et débat comme le théâtre de l'opprimé, les formes de théâtre forum. Et du coup, j'ai rejoint le groupe en me disant ben tiens, on pourrait s'échanger certains outils ensemble, quoi.
Alors je vous propose, pour illustrer un peu là, parce qu'on présente un peu le cadre, je voulais parler d'un deuxième montage. Voilà, donc on avait entendu un premier montage au début de l'émission, et du coup il y a un deuxième montage. Tu voulais nous présenter un peu le contexte?
Oui, alors moi du coup je voulais bien expliquer qu'en fait cette année, c'est la première année où on a fait des productions avec les élèves, et que du coup on a séparé les classes en deux sous-groupes, et dont Marina parlait là. Et ce que j'expliquais, c'est une, on faisait du théâtre forum où on présente des petites scénettes en fait qui correspondent à la vie et au vécu d'histoire des élèves qu'on présente, et après on propose aux élèves d'intervenir pour essayer de changer les situations. Donc de trouver des outils là pour concrètement changer des situations d'oppression et de domination. Donc ça, c'était le théâtre. Et après, il y a eu tout l'autre groupe à travailler sur des productions sonores de radio, que peut-être tu peux préciser.
Oui, mais l'intérêt, c'était que les élèves puissent choisir, comme en fait on nous a demandé de faire une représentation cette année pour montrer un peu le travail, comme on a eu les mêmes classes pendant 2 ans, je pense que les profs avaient un peu envie de voir qu'est-ce qu'on avait fait avec eux et elles. Il y avait des classes de garçons et des classes de filles. Peut-être ça, on aurait pu le préciser aussi, parce que c'est intéressant, en fait, on intervient dans des lycées techniques. Donc des lycées techniques... je sais pas pourquoi, ils sont rassemblés par trucs très genrés. Alors il y en a un, il y a les sections coiffure, métier de la mode, secrétariat, esthétique, ménage. Donc il y a quasiment que des meufs dans ce lycée. Et il y en a un où c'est mécanique industrielle, je sais pas ce qu'il y a d'autre, système automatisé. Et il y a que des gars, il y a 4 filles sur 400 élèves. Donc pour vous dire, voilà. Donc on intervient dans ces deux lycées-là, donc avec des classes qui sont soit vraiment non mixtes de fait, hein, c'est la non-mixité culturelle là pour le coup, donc des classes où il n'y a que des garçons, et puis les classes où il n'y a quasiment que des filles, puisqu'il y a des fois un garçon ou deux qui atterrissent en coiffure comme ça. Donc c'est important pour le montage qu'on va entendre. Enfin du coup, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on leur a donné le choix. On leur a donné le choix de soit choisir de faire du théâtre, soit de choisir de faire des productions radio. Et donc, dans le groupe radio, il y avait un groupe qui avait travaillé sur l'homosexualité. Vous avez entendu le montage au début de l'émission. Et là, c'est un groupe... donc, c'était... ils étaient, le jour où on allait faire le micro-trottoir, ils étaient 3. Il y avait un garçon et puis 2 filles. Et puis... enfin bon, ils et elles vont vous présenter leur sujet et tout, mais encore une fois, soyez indulgentes aussi du son, et on n'avait pas forcément du très bon matériel, et puis c'était encore une fois une première expérience de radio, quoi. Bon, mais enfin, on vous laisse écouter.
Flash FM.
Flash, 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 flash.
Ce matin, on se réveille tous fraîchement. On est au lycée Jacques Prévert. Nous sommes en terminale coiffure. Et aujourd'hui, on travaille avec une association Virus 36 sur l'égalité homme-femme. Nous avons voulu savoir ce que pensent les gens sur l'égalité homme-femme.
Lors de nos interviews micro-trottoirs, on constate que les hommes et les femmes ne peuvent pas vivre les uns sans les autres.
On vous laisse écouter les résultats de notre enquête.
Bonjour, nous sommes en direct à la vie scolaire pour poser des questions sur les relations filles et garçons. Donc bonjour.
Bonjour.
Donc que penserez-vous d'un monde sans les hommes?
Très difficile.
Et pourquoi cela?
On ne peut pas vivre l'un sans l'autre.
Très bien, merci, au revoir.
Bonsoir.
Bonjour, que penseriez-vous d'un monde sans femmes?
Ouais. Bon, je dois répondre sérieusement. Étant un garçon, ça me paraît un peu difficile à concevoir, quoi, mais pour moi, déjà, il n'y aurait pas de vie sans les femmes. Et puis, vu que ça occupe une bonne partie de nos pensées, je pense qu'on n'aurait plus grand-chose à penser au final, quoi. Voilà, en gros.
Merci. Bonjour, que pensez-vous du monde sans les hommes?
Ça serait un peu compliqué pour se reproduire.
Oui, et à part ça?
Ça serait peut-être un monde un peu moins violent, moins basé sur la domination. Voilà.
D'accord. Bon, bah merci.
Bonjour madame, on va répondre à une question pour un sondage amitié fille-garçon. Que penseriez-vous d'un monde sans les hommes?
Je pense que ce serait pas vraiment possible, dans le sens où en fait je pense qu'il y a un équilibre à avoir au niveau relationnel, on n'a pas le même fonctionnement, et je trouve qu'on est, c'est intéressant d'avoir cette complémentarité.
Un homme sans les hommes, un monde sans les hommes, ce serait difficile à gérer à mon avis. Par contre, c'est vrai que personnellement, il y a des moments où j'aimerais bien être sans homme. Au quotidien notamment, des fois. Mais c'est vrai que je pense que l'homme a autant besoin de la femme que la femme a besoin de l'homme, en fait. Voilà, ce qui se complète.
Que penseriez-vous d'un monde sans les femmes?
Impossible.
Pourquoi?
Tant qu'à faire, il vaut mieux qu'il y ait des femmes pour pouvoir se reproduire.
Oui, mais encore.
Mais encore? Déjà, c'est vachement important. Un homme doit avoir une femme, normalement.
Bonjour madame, que pensez-vous d'un monde sans les hommes?
Non, je ne suis pas pour un monde sans les hommes, parce qu'on a quand même besoin d'eux, malgré tout.
Pourquoi?
Oh, pour plein de choses. Déjà, si on veut se reproduire, façon de parler, hein, bien sûr. Et puis, pour certains types de métiers, que nous, les femmes, on ne peut pas faire, il faut le reconnaître. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Pour des métiers assez physiques, pour des métiers où on est obligé de travailler à l'extérieur. Par contre, nous les femmes, on peut faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Pour faire les bébés, ça ils peuvent pas. Et puis pour certaines choses qu'on est plus, délicate, on va dire, à ce niveau-là.
Que penseriez-vous d'un monde sans les femmes?
D'un côté, ce serait plus sécurisant pour tout ce qui est automobile, tout ça. D'un autre côté, on fait comment après? Ça.
La Terre,
Déjà ça veut dire que c'est la fin du monde.
Oui.
Et puis ça enlève quand même pas mal de plaisir. Bon, ça enlève pas mal de coups de gueule, mais ça enlève quand même beaucoup de plaisir, quoi. Il n'y a pas d'enfants.
D'accord, merci monsieur. Alors, que penseriez-vous d'un monde sans les hommes?
On s'ennuierait, les femmes.
À quel point de vue?
À tout, on a personne sur qui râler, donc voilà. Et on a tous besoin d'un pilier dans notre vie, donc un homme. Hein.
Jeune homme, qu'est-ce que tu dirais d'un monde sans les filles?
Rien, il y aurait moins de monde. Et voilà.
Ce serait comment à l'école sans les filles?
Les classes, elles seront plus petites. Je sais pas.
Ouais, mais et t'aurais pas pu avoir de petites copines aussi alors?
Flash FM.
Olympia, and everyone's the same.
Jean-Ré sur Radio Kaléidoscope. Vous venez d'entendre un morceau de Hall, donc, et ce morceau s'appelle Rockstar. Et notre technicienne, qui est également notre traductrice favorite, m'a bien expliqué que, alors ce qu'elle dit dans la chanson, c'est un truc sur l'école, qu'à l'école tout le monde est habillé pareil, parle pareil, fait les mêmes choses. Enfin, cette espèce de normalisation là, comme ça, où le but c'est que tout le monde se ressemble, et elle l'appelle plutôt à être soi-même, quoi, je dirais, ou un truc dans le genre, oui, voilà. À
sortir un peu de tout ce carcan.
Oui, c'est pas mal. Alors, en parlant un peu là de nous, des ateliers qu'on a proposés dans des lycées professionnels là, de l'agglomération grenobloise, toi, tu réagissais, Sylvia, par rapport à un bilan que tu as pu tirer sur la région de Toulouse, je crois ?
Tout à fait. Donc, c'était dans le rectorat de Toulouse. C'est le bilan dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, que j'ai fait dans le cadre de mon stage. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait beaucoup d'actions qui étaient faites plutôt pour tout ce qui était autour de diversifier les métiers, les choix des métiers, autour de l'orientation, les salons, les salons des métiers, des interventions de... d'entrepreneurs, enfin ce genre de choses, mm-hmm. avec même une fois c'était l'UIMM, donc le gros syndicat de la métallurgie, qui avait invité, il me semble, toutes les filles de 3e de la région à Bercy pour avec un aller-retour dans la journée en avion.
Ah bah ils ont les moyens.
Tout à fait. Pour présenter les métiers de la métallurgie en gros et inciter les filles à aller dans ces métiers-là. Donc c'est vraiment très... on a des problèmes de main-d'œuvre, on va en avoir de plus en plus dans ces secteurs-là, et donc on va inciter les filles à aller à se diriger vers ces secteurs, que ce soit métallurgie, bâtiment, ce genre de choses.
Ça part pas d'un souci d'émancipation pour... pour les femmes ou de lutte contre les discriminations, tout ça, tu penses ?
C'est pas l'impression que ça m'a donné, mmh. effectivement. Et que les actions qui étaient vraiment de... on essaye de faire en sorte qu'il y ait une égalité réelle, donc que les droits dans la réalité soient les mêmes pour les garçons et les filles. Par exemple, ce que tu disais... Jay, sur le fait que les filles elles aient le droit de sortir dans la rue autant que les garçons, que le fait de pouvoir s'habiller comme on veut, de pouvoir faire le choix de sa vie comme on en a envie et pas seulement le choix de son métier, ça, il y en avait beaucoup moins.
Il y avait peu de préoccupations sur ces questions-là, quoi.
Voilà. Et puis, sur ce qui est de l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui est obligatoire maintenant, depuis des années 2000, je crois. Mais pour autant, c'est quand même pas tout le temps impliqué, quoi. C'est-à-dire que normalement, il y a une fois dans sa scolarité, on doit avoir au moins un cours sur la sexualité, mais c'est très très peu de toute façon. Et comme tu le disais aussi, c'est généralement sur
la reproduction.
Voilà, c'est pas très ouvert sur les questions de... de relations amoureuses, de la difficulté des rapports aussi,
ça nous on le constate, hein. On constate que c'est mal fait. Enfin, je veux dire, là sur les différentes classes dans lesquelles on est intervenu, on voit bien, elles posent, on leur permet de poser des questions. Enfin, on leur demande, on les incite, on les encourage vivement à ce qu'elles posent toutes les questions qu'elles se posent, qu'elles n'ont jamais osé poser, en passant aussi par des trucs d'anonymat. Et il y a des questions qu'elles posent. Moi, je suis choquée qu'elles les posent encore. Parce qu'elles sont censées... pour moi, elles ont rencontré le planning. Il y a eu des ateliers déjà, normalement. Et elles ont déjà... Donc, il y a quand même des lacunes hyper flippantes, quoi, je trouve, sur tout l'accompagnement à la découverte de la sexualité chez les adolescents et les adolescentes. C'est grave, quoi. Enfin, je vais dans ton sens, quoi.
Oui.
Et ouais, moi je questionnais aussi une personne qui travaille au planning là-dessus en me disant c'est pas pour non, parce que je trouve ça important de le dire, c'est pas pour dire que vous faites pas du bon boulot ou quoi, mais ça me surprend en fait de comment après des interventions du planning il y a des telles idées préconçues sur plein de choses, sur la transmission d'infections sexuellement transmissibles, sur comment on peut tomber enceinte, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, elle disait ben c'est que la plupart des lycées se cantonnent au minimum imposé, c'est-à-dire une intervention. Donc qu'est-ce qu'on fait en une intervention de 2 heures? Je veux dire, on a à peine le temps de créer un climat de confiance que déjà est touché au préjugé que déjà la séance elle est finie, donc on va pas aller plus loin quoi. Et du coup moi j'avais envie peut-être aussi de revenir sur les deux sont liés en fait, mais de voir un peu quels outils on pouvait utiliser dans des cadres scolaires, donc peut-être pour là on est plus au niveau des adolescents, quelle forme d'outils, parce que tu parlais tout à l'heure de Théâtre Forum qui est effectivement un outil très riche, et que moi j'aime bien citer la phrase d'Augusto Boal qui a créé cette pratique, je trouve, qui dit que pour lui c'est un théâtre qui permet de répéter la révolution, c'est-à-dire que d'amener un vrai changement, on n'est pas là pour juste faire une petite création, juste faire plaisir, etc. quoi, il s'agit d'amener un changement réel, tout ça, et de voir quel contenu on aborde à travers les outils qu'on utilise, tout ça. Alors je sais pas si vous avez des exemples qui vous reviennent.
Alors il y a l'outil du Théâtre Forum, mais moi ce que j'aime bien rappeler c'est que avant on a aussi plein d'outils de toute l'association, et donc toi Hélène que tu utilises de débats, de discussions et avec des jeux de cartes anonymes ou de, enfin on a plein de petites techniques qui permettent de aussi poser les choses et faire des jeux aussi pour créer le climat de confiance dont tu parlais tout à l'heure, qui est hyper important pour parler de toutes ces questions là en fait, de se sentir en confiance ensemble et en solidarité. Et du coup le théâtre forum, enfin c'est marrant parce que répétition de la révolution c'est aussi d'abord seulement la répétition, et en fait on s'entraîne, et comment dans un climat de confiance on peut s'entraîner entre nous à avoir parlé d'abord, faire émerger des situations qui nous gênent, qui nous dérangent, comment on peut s'entraîner à les changer, parce qu'on peut les changer, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour après permettre la véritable révolution entre guillemets, enfin la transformation sociale, de dans ma vie je vais pouvoir essayer d'agir différemment, et en tout cas me rendre compte que je pourrais le faire, que c'est possible en fait de penser autrement, de me défendre quand on me cantonne à tel ou tel rôle ou à telle ou telle chose quoi.
Oui, et juste pour compléter sur cette idée, pour moi, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on procède beaucoup, on pourrait dire en termes pédagogiques, mais pour moi, ça marche dans toute la société, en fait, c'est que avant de combattre une oppression, avant de faire changer une situation, eh ben, il faut prendre conscience des mécanismes, en fait, de la situation, et c'est ça dont on parle aussi depuis le début de l'émission, c'est déjà comment prendre conscience des inégalités, des choses qu'on n'a pas à subir, des limites qui ne sont pas respectées, comment prendre conscience de tout ça pour après dire eh ben maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi.
Non mais c'est vrai que c'est pas forcément évident cette prise de conscience là, et c'est un peu ce que tu disais à un moment donné je crois sur la différence entre comment ça se passe avec les garçons et avec les filles, parce que du coup on intervient dans des groupes où pour le coup le genre est vraiment marqué, enfin je veux dire les garçons qui sont dans des filières de mécanique et tout, ils sont vraiment il y a pour le coup l'assignation de genre elle est assez forte, et donc c'est vraiment des groupes de gars, vous voyez, qui ont 16 ans, qui sont à fond et tout, et je pense en chie aussi pas mal, mais et donc les groupes de filles, enfin voilà, et il y a des, moi je vois des différences de difficulté à prendre conscience quoi. Pour les garçons c'est très difficile de prendre conscience de ça, de l'accepter. Ça veut dire aussi, et alors pour le coup prendre conscience qu'on peut être des victimes, je pense que c'est encore une autre démarche quoi. Et il y a beaucoup de négation de ce qui se passe, hein, parce que par plein de petites choses, par plein d'outils, par plein de petits exemples, on essaye de passer par des prises de conscience, et moi je vois beaucoup chez les groupes de garçons une vraie négation de ce qui se passe, quoi, de dire non, c'est pas vrai, il n'y a pas de violence entre nous, on n'est pas obligés. Enfin, vous voyez, c'est nos techniciennes qui font les clowns, alors ça nous aide pas.
Ah non, c'est un numéro, non, c'est bon, elles sont en train de déconstruire le genre et les images.
C'est le drag king.
Dégenré, on explose le genre. Alors, et moi j'aime bien aussi cette façon qu'on a de mélanger plein d'outils, en fait, que ce soit effectivement le théâtre forum, des jeux qui sont des jeux qui. qui permettent un peu de se dégourdir les jambes et puis de sortir aussi de nos carcans physiques,
de prendre confiance les uns en les autres,
voilà, comment on travaille aussi sur les groupes, quoi. Et ça marche vraiment. Moi j'ai vu au fur et à mesure des ateliers comment les groupes ils se ressoudent autour de notions comme effectivement la solidarité, enfin on travaille plein de choses et c'est vachement intéressant.
Et du coup ça me fait penser que c'est vraiment cette histoire d'un processus, en fait, tout ça pour aller vers une émancipation, une déconstruction des normes, retrouver de la liberté, etc. Mais que ça, c'est pour ça que nous, c'était important d'intervenir sur 2 ans de suite, là, et avec au moins 6 séances par groupe par an, parce que c'était ça le processus, c'est d'avoir un vrai suivi avec les élèves, parce que comme tu le disais très bien, c'est pas en une séance de 2 heures qu'on peut changer ces constructions-là et qu'on peut agir là-dessus, et que ce processus-là, il sert aussi à donner de la capacité d'agir, ou en tout cas à se rendre compte de sa propre capacité d'agir dans la situation. Et c'est ce dont tu parlais, Sylvia, sur la confiance en soi aussi au début. Et ça, pour moi, cette prise de conscience d'une, de sa place dans la société et qu'est-ce que la société nous impose, et deux, après, c'est aussi à son propre niveau qu'on peut agir là-dessus et qu'on a des ressources et tout ça. Et ça, par contre, ça ne peut prendre sens que si on a le temps,
que dans la durée, vraiment.
Voilà, que dans la durée pour le changer.
Et puis aller, aussi au-delà des, je trouve au-delà, parce que quand tu parlais aussi de cette question d'intervention sur les orientations professionnelles, etc. C'est vrai qu'il y a des enjeux là-dessus. Enfin, c'est vrai que tant qu'on restera dans une société où on conseillera à une fille d'être esthéticienne ou secrétaire, et aux garçons de faire de la mécanique, c'est vrai que c'est une vraie discrimination là-dessus, des réelles souffrances et des deux côtés. Enfin, ça, nous, on l'a constaté, que je veux dire, les garçons, les garçons qui faisaient de la maintenance d'outils industriels ou quoi, qui disaient mais à quoi ça sert de faire du théâtre ? Nous, on nous demande pas de parler, hein, on nous demande d'aller bosser à l'usine. Enfin, je veux dire, des choses hyper dures, quoi. Et moi, je pense que ces carcans-là, il faut vraiment essayer de les faire exploser, c'est certain. Mais en tout cas, nous, on a beaucoup travaillé aussi à aller au-delà de ça, de dire ça, c'est un symptôme, en fait, de notre société. C'est un des enfermements qui se produit, mais il y a des choses encore plus profondes et il faut aller au-delà, quoi. Et voilà, et du coup, peut-être pour aller, parce que notre émission va un peu vers sa conclusion, et du coup, moi je me demandais un peu ce que vous avez constaté, ce qu'on a constaté ensemble des réactions des élèves. Comment elles et ils ont vécu ces interventions ? Est-ce qu'ils ont l'impression que ça a apporté des choses, etc.
Alors, moi je sais qu'il y a une des élèves qui a vraiment dit aux dernières séances qu'elle n'avait pas eu d'autre endroit pour parler d'une situation qu'il était arrivé au sein de sa propre famille.
Situation de violence assez grave.
Voilà. Et que du coup, c'était la première fois qu'elle pouvait en parler collectivement, qu'on pouvait essayer de réfléchir à collectivement qu'est-ce qu'on pouvait faire de tout ça, et que ça avait été hyper fort pour elle, pour nous aussi, de créer cet échange-là. Enfin, je raconte cette histoire-là parce que moi, elle m'a personnellement beaucoup, beaucoup émue, mais c'était pas la seule non plus. Et il y a eu, et elles ont été plusieurs à vraiment profiter, en fait, de ces séances pour parler de situations de leur vie et se rendre compte aussi, on sentait des prises de conscience ensemble de « Ah oui, mais à toi aussi, on te dit ça quand tu mets du rouge à lèvres » ou « Ah ouais, à toi aussi, ah non, mais c'est dégueulasse et tout » Et ça, c'était c'est des retours vraiment concrets, directs qu'on a eus et qui pour moi étaient hyper importants.
Moi, j'ai vraiment observé, et notamment dans les classes de filles, comment en 2 ans, les rapports entre elles ont changé. Alors, c'est peut-être pas dû seulement à nous, hein, je vais pas nous accorder tout cet avantage-là, mais elles ont peut-être aussi grandi, la plupart elles sont internes, alors elles se voient tous les jours, elles apprennent à se connaître et tout. Mais en 2 ans, j'ai vraiment vu comment le groupe s'est soudé autour de solidarité vachement plus forte. La première année, il y avait vachement plus des petits trucs, des pics entre elles, il y avait des trucs un peu trash et tout. La deuxième année, c'était vraiment... ça avait un peu disparu, quoi. Il y avait plus un lien. Et je pense quand même qu'aussi, les ateliers avec nous ont été utiles à ça. Parce qu'on a travaillé vachement là-dessus aussi. Donc ça, c'est des vrais résultats, quoi, pour moi, qui ont vachement de sens. Hein.
Ouais. Et moi, je me rappelle auprès de classes de Guinmer, là, donc auprès de garçons et tout, je me rappelle, alors là, pour le coup, c'est pareil, ça peut paraître infime, mais en même temps, moi, je trouvais ça... pas rien, quoi. C'est comment en fait ils arrivaient à exprimer des émotions, et ça, moi, je trouve ça absolument terrible, parce que j'ai l'impression que ils ont été complètement construits socialement pour être des espèces de porte blindée, là, vous voyez, qui est dure, qui est froide, qui exprime rien, et du coup t'as l'impression qu'il faut les secouer pour réussir, parce que je veux dire, on s'en rend très vite compte, hein, en eux il y a plein d'émotions et tout ça, mais qu'à l'extérieur il y a rien qui passe, et ben du coup ça a permis pour moi d'arriver à faire ressortir ces émotions, et pour moi ça veut dire qu'à partir du moment où tu commences à assumer que tu ressens des choses, etc., ben que ton rapport à l'autre forcément il évolue. Alors vous voyez, on est c'est
un film, hein, tout ce qu'on dit.
Voilà,
mais c'est pas rien.
Ouais, tout à fait.
Peut-être on finit l'émission sur un peu des infos.
Voilà, peut-être toujours, je sais plus, peut-être Sylvia, si, peut-être on avait un mot avant de conclusion,
oui,
sur vers quelle perspective on avait envie d'aller, on trouvait intéressant d'aller. Donc moi j'ai l'impression qu'on pourrait dire continuer ces formes d'intervention, ça ressemble assez
évident.
Assez évident d'en diffuser le plus possible, etc. Je sais pas, est-ce que ça t'évoquait aussi
Bah oui, moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que je pense que si on veut que les choses changent, que les mentalités évoluent, il faut vraiment faire beaucoup plus que ce qui est fait aujourd'hui et y mettre les moyens qui ne sont pas mis aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale. Ce truc à Bercy, ça m'avait vraiment choquée.
De voir où sont mis les moyens économiques, voilà. Pour quelles raisons.
Ce type d'intervention que vous faites, je trouve ça hyper intéressant, et on voit bien, voilà, c'est fait dans une classe, dans deux lycées, c'est...
Oui, c'est tout petit, quoi.
Que ce soit,
quoi,
dans toutes les classes, quoi. Mm-hmm. De tous les collèges, tous les lycées, tout ça.
Tout à fait. Et dire que, voilà, on peut redire aussi ce qu'on disait en début, c'est qu'il y a d'autres pays qui se donnent des vrais moyens et pour qui c'est une vraie préoccupation, en fait. Pour qui, on ne peut pas juste accepter ce système patriarcal et le laisser se reproduire sans arrêt.
Alors, donc, pour finir notre émission, on aime bien donner des petites infos. Alors, j'ai envie quand même de nommer, parce qu'on a parlé d'une association et on ne l'a pas dit, c'est l'association Virus 36, du coup, avec laquelle on est plusieurs là à travailler. Donc, comme on en a parlé, c'était important de la nommer. Et pour finir les infos, alors, on approche de ce grand moment dans l'année, le moment dans l'année où il est temps de se préoccuper de la situation des femmes, le seul moment où les politiques, les mairies, d'un coup, se réveillent et se disent... Ah, mais oui, nous nous intéressons beaucoup à la situation des femmes et nous avons très envie d'en parler, donc nous avons invité plein de gens. Enfin bon, c'est le seul moment de l'année. Nous, ça, enfin, moi, ça m'agace,
oui,
beaucoup.
Oh, c'est partagé, quand même.
Je crois, voilà. Donc, allez voir, hein, les mairies dans les différentes communes de l'agglomération grenobloise. Il y a des choses pas inintéressantes, voire assez intéressantes qui sont proposées.
Oui, films, des débats, etc. Il y a des choses.
Il y a des choses. Bon, voilà, il faut en profiter, peut-être. On va pas vous faire tout le détailler. Vous trouverez les plaquettes assez facilement. Peut-être qu'il y avait un événement, toi, Hélène, dont tu voulais parler vite fait.
Parce qu'il y a un collectif dont on fait partie pour certaines, les frasques féministes pour la réappropriation de l'avortement, des sexualités et des contraceptions, et on participe à une table ronde à l'Heure Bleue à Saint-Martin-d'Hères, samedi 6 mars. là, c'est passé puisque notre émission va être diffusée le 13 mars. Hein, donc, vous ne pourrez pas assister. Voilà,
le 8 mars,
le 8 mars également. Mais par contre, la programmation, elle continue sur tout le mois de mars. Hein, donc, ça va.
C'est qu'on préenregistre nos émissions, c'est vrai que ça nous perd. Hein. Mais alors, oui, si, moi, je peux vous annoncer le truc quand même. Donc, si vous nous écoutez le 10 mars, ça veut dire que dans deux jours, il y a un événement qui va être chouette dans un endroit qui s'appelle le Kremlin. C'est un lieu occupé à Fontaine. Et donc, c'est une journée un peu autour du mouvement Riot Girl, dont on vous parle souvent, alors vous devez savoir ce que c'est. Alors il y a d'abord un film à 17h, une projection de film, oui je me défile pour pas expliquer, c'est vrai. Donc à 17h, une projection de film qui s'appelle Travel Queeries, donc qui est un film sur le mouvement queer radical en Europe. Je ne l'ai pas vu, mais il a l'air d'être super. Et à 20h, donc après il y a un resto, voilà, on peut manger tous et tout ensemble. Et puis à 20h, un concert avec deux groupes. Un groupe qui s'appelle Ex Best Friends, qui est un groupe de Berlin de Punk Riot Girl. Et un groupe de Milan qui s'appelle Agatha et qui a l'air d'être du punk hardcore. Voilà, je ne connais ni l'un ni l'autre, mais j'ai tout à fait conscience que ce sera une super soirée. C'est le 12 mars, vendredi, 17h le film, 20h le concert, au Kremlin, au numéro 4 de la rue Saint-Nizier, à Fontaine, arrêt tram Gabriel Péri. Je pense que ça va être un moment assez sympa.
Oui, et une autre femme, alors évidemment c'est le même soir, hein, mais une autre femme qui a fait un travail intéressant, donc qui va présenter ce travail à Antigone, qui a bossé sur les mouvements libertaires et anarchistes. Et du coup, pareil, je trouve ça important de mettre en avant la pensée de femme dans tous ces courants politiques, qui est trop souvent invisibilisée. Donc c'est le vendredi 12 mars à 20h à Antigone, rue des Violettes, quartier des Eaux-Claires.
Alors soit vous avez envie d'aller vous défouler sur du punk, soit vous avez envie d'entendre parler de mouvements politiques, les deux sont tout à fait intéressants. On va terminer notre émission, remercier nos invités Jay et Sylvia d'être venus.
Ben, merci à vous.
Avec plaisir, on viendra.
D'accord, quand vous voulez. Et alors, pour finir, on vous propose d'écouter... Tu voulais dire un truc avant?
Non, c'était pour dire juste que c'était un morceau bien offensif, mais qu'on assumait parce que c'était ça qu'il fallait faire, passer à l'offensive.
Oui, et qu'on l'assume d'autant plus que c'est un morceau de Kazek, qui est une rappeuse assez... formidable, de toute façon, moi je l'aime beaucoup et je ne peux que vous encourager à aller la voir sur scène. Elle est en tournée en ce moment pour son nouvel album, ça vaut le coup. Moi je l'ai vue il y a une semaine ou deux là et c'était vraiment, c'est super quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, ça vaut vraiment le détour. Kazay avec la chanson Mourir con. Bonne soirée.
Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants. Et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon. Là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants. Et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon. Là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Chez les connards, y'a deux cas de figure. Y'a la soi-disant star et le fond blard de similitude. Mais je crois à coup sûr que la pire des raclures, c'est celui qui souhaite être les deux. Quelle ordure. Le premier se la joue voiture et cigare et s'assure d'être vu quand il se gare. Le deuxième, je te jure, une caricature. Comme par hasard, le héros de la bagarre dans son histoire. Et le troisième, lui c'est ma hantise. Un vrai concentré de bobards et de bêtises. Il n'est rien mais aimerait bien qu'on le courtise. Petit chiant qu'il faudrait qu'il teste toutes ses foutaises. Et puis tu sais, leur point commun à tous, c'est qu'ils nous les cassent en long, en large et en douce. Si ça nous intéresse, ils s'en tapent. Trop occupés qu'ils sont à vouloir attirer les regards et l'attention. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants. Et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon. Là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants. Et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon. Là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. J'en ai connu des spécimens d'imbéciles heureux errés dans mon domaine. Le rap a toujours eu pas mal de phénomènes d'abrutis et de cons que la prétention m'amène. Y'a celui pour qui c'est la flamme qui domine, qui n'a aucun talent au micro et sous la mine. Celui qui peut être un militant sans raison, incapable de remplir son frigo à la maison. Et y a
tellement sur la prison. Car ceux qui parlent le jour de cramer Babylone et le soir se font mettre la misère par bobonne. Et ceux qui parlent fort, nanana nananer, la ramène toujours. Moi j'ai fait, je vais faire. Cherche à chaque fois à déclencher une guerre. Et puis qu'on doit fuir au moment où faut la faire.
J't'ai vu,
ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants. Et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon. Là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants. Et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon. Là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Ils veulent, ils parlent, ils ouvrent leur gueule. Qu'ils me laissent tranquille, putain j'en ai ras-le-bol. De ces faux vandales, vantards, forts en parole. Ils me gênent, pompent mon oxygène. J'imagine que leur connerie est dans leur gêne. Et ils nous infligent, sans que ça les dérange. Tout ce qui voltige dans leur crâne les démange. Dans leurs messages, et c'est avec beaucoup de courage que j'écoute leurs mirages. Trop d'énergie à vouloir donner le change, essayer à tout prix d'être ce qui les arrange. C'est dans ma tête qu'ils mentent, et puis qu'ils tentent de me persuader de ce qu'ils inventent. J'en ai marre de subir et de tenir bon. Ce soir j'ai envie de faire mourir un con. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants. Et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon. Là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants. Et en public faut voir comme ils font. Petit bouffon veut être mauvais garçon. Là j'en ai marre, ce soir ils vont mourir con. Hein, essaye d'être toi-même, bouffon.